Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. L'heure est à la mobilisation contre le virus Ebola qui sévit depuis plusieurs mois en Afrique de l'Ouest. Cette semaine, la Commission européenne a demandé aux pays membres de compléter l'enveloppe de 150 millions d'euros déjà débloquée. Les propositions seront présentées à New York fin septembre. De son côté, le président américain a dévoilé un plan ambitieux contre la maladie. Le Congrès devra approuver une rallonge de 88 millions de dollars pour porter à 250 millions l'aide des États-Unis. Washington a par ailleurs annoncé l'envoi de 3000 militaires. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est lui aussi mobilisé. Peut-on parler de militarisation de la lutte contre Ebola alors que des voix s'élèvent pour dire que l'épidémie est déjà hors de contrôle et que seule une réponse globale massive permettra de l'enrayer à échéance de 6 à 9 mois. L'irruption d'Ebola en Afrique n'est pas une première. Les précédentes flambées moins massives et surtout beaucoup moins meurtrières avaient pour nid la région des Grands Lacs en Afrique centrale. État des lieux et regard sur ce que révèle la crise Ebola aujourd'hui, crise africaine, crise mondiale. Regard aussi sur les répercussions géoéconomiques avec nos invités par téléphone, Christian Bouquet, professeur émérite de géographie politique à l'Université Bordeaux 3 et au laboratoire Les Afriques dans le Monde, rattaché au CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Benoît Miribel, directeur général de la Fondation Mérieux, dont le laboratoire a été le premier à poser le diagnostic du virus en mars dernier. Bonjour.
Bonjour.
Et Ronnie Broman, ancien président de Médecins Sans Frontières, MSF, donc l'une des rares organisations non gouvernementales à être présente sur le terrain, professeur également associé à Sciences Po Paris. Bonjour.
Bonjour.
Sans stigmatiser qui que ce soit ici, l'épidémie et les difficultés à lutter contre elle ne révèlent pas moins une absence de moyens à tous les niveaux. Immense faiblesse des systèmes de santé des pays concernés, Libéria, Guinée, Sierra Leone, qui ont été la proie de guerres civiles récentes, et de l'Organisation mondiale de la santé, qui a subi des coupes drastiques dans ses budgets ces dernières années. Contenir le virus est extrêmement difficile, des cas ont été signalés au Nigeria, ailleurs peut-être aussi. Ebola n'est pas seulement une crise africaine, mais bien une crise mondiale et une menace pour la paix mondiale, comme décrit par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Christian Bouquet, Benoît Miribel.
Bon, je vais peut-être prendre la parole le premier. Oui, je crois que c'est une crise mondiale, mais on a mis beaucoup de temps à s'en apercevoir parce que il me semble que le premier cas déclaré remonte à mars 2014. Vous voyez, il s'est passé presque 7 mois. Et maintenant, on assiste effectivement au grand réveil de la communauté internationale. En attendant, on a vu les trois pays les plus touchés, essentiellement, donc la Guinée, surtout le Libéria et la Sierra Leone, se déliter progressivement alors qu'ils étaient déjà bien délabrés et avoir énormément de mal à faire face à cette crise.
Alors, Benoît Miribel, je me tourne vers vous. Christian Bouquet évoquait le premier cas mars 2014. En fait, il s'agit d'un phénomène antérieur à cela. Si j'ai bien compris, dans le cadre de la préparation de cette émission, c'était même en décembre 2013 que les premiers cas ont été signalés. L'épidémie d'Ebola a été officiellement confirmée donc le 21 mars 2014 par le centre de recherche basé à Lyon, au laboratoire Jean Mérieux. Les souches provenaient d'un hôpital en Guinée forestière géré par Médecins Sans Frontières. Benoît Miribel, comment l'épidémie a-t-elle pris l'ampleur qui est la sienne aujourd'hui et où en est-on finalement aujourd'hui dans la lutte contre le virus? On parle de médicaments, de vaccins.
Oui, alors c'est vrai qu'il faut souligner que c'est le docteur Sylvain Baize de Pasteur qui travaille effectivement au laboratoire Jean Mérieux avec l'INSERM ici à Lyon, qui par le lien avec MSF a pu caractériser et confirmer cette souche Ebola. Effectivement, votre question, c'est comment ce virus a pu se propager aussi rapidement. Un des premiers éléments que l'on a bien en tête, c'est la difficulté de contenir les personnes. Ça a été dit, répété de partout dans la presse. Et effectivement, quand on arrive à contenir des personnes qui sont infectées, c'est plus simple de maîtriser ce virus qui est fort. Il y a ceux qui arrivent à en échapper, heureusement, puis ceux qui, malheureusement, en sont victimes. Donc, le premier élément, c'est la difficulté d'avoir pu contenir ces populations pour de multiples aspects, y compris sociaux, culturels, que l'on a en tête. Et donc, ben voilà, le virus se promène, le virus est transmis de personne en personne, et plus le système de santé, donc on va expliquer peut-être ce que c'est qu'un système de santé, mais plus ce système de santé est fragile, on le voit dans le cas du Libéria, plus le virus a de quoi se promener, passer de personne en personne.
Alors, René Broman, je me tourne vers vous. Système de santé, qu'est-ce que ça veut dire? Benoît Mirabel l'évoquait à l'instant. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par système de santé afin de mieux mettre en exergue finalement les difficultés inhérentes à ces systèmes dans les pays évoqués?
Un système de santé, c'est d'abord un dispositif pratique, c'est-à-dire des centres de santé, des centres de référence, des hôpitaux, du personnel formé, donc des capacités de prise en charge des patients et des capacités de détection, voire de prévention. C'est tout ce que l'on a à l'esprit qui relève d'un ministère de la Santé, des équipes et des centres de soins qui en relèvent. Et en effet, dans ces trois pays, Guinée, Sierra Leone, Libéria, la Guinée n'a pas été en guerre, le Sierra Leone et le Libéria l'ont été. La Guinée n'a pas, si on peut dire, l'excuse de la guerre, et on peut même dire, il s'agit pas, comme vous le disiez à juste titre, de stigmatiser, de régler quelque compte que ce soit, mais tout de même d'avoir conscience des raisons pour lesquelles tout cela s'est développé comme ça. La Guinée était dans une attitude de dénégation. En juin dernier, encore, une controverse avait opposé la présidence guinéenne et Médecins Sans Frontières, la première accusant la seconde d'exagérer pour les besoins de sa publicité l'épidémie qui était en réalité sous contrôle, qui n'était pas un réel problème. Alors avec le recul, ça semble effectivement terrible comme controverse. Alors oui, en effet, une des responsabilités de cette épidémie incombe à des gouvernements qui n'ont pas su soit empêcher la guerre, soit à la faveur de la paix, développer leurs services de santé. Mais il n'y a pas que ça. Je ne sais pas s'il est déjà le moment d'intervenir. Enfin, il y a d'autres conditions, d'autres évolutions qui rendent la question des maladies virales, des épidémies émergentes particulièrement actuelle. La réaction tardive face à cette épidémie d'Ebola doit nous éveiller à la question des épidémies virales émergentes. Je dis bien épidémies virales, il y a d'autres formes d'épidémies, mais les virus constituent un ensemble particulier. Et aussi bien la croissance démographique que les croissances urbaines, que le changement climatique, pour, ramener les trois facteurs principaux au centre de notre réflexion, tous ces éléments-là laissent penser que dans le monde entier, des épidémies virales sont là, tapis dans l'ombre, et attendent. Et on pourrait plaider, comme le dit le philosophe Jean-Pierre Dupuis, pour un catastrophisme éclairé, c'est-à-dire pas pour une alarme apocalyptique. Il s'agit pas du tout de semer la terreur partout, mais de se mettre en face de crises majeures potentiellement présentes, c'est-à-dire de catastrophes, et de s'y préparer avec les sciences dures, les sciences sociales. Tout cela requiert donc un effort de meilleure compréhension et de préparation à d'autres épidémies. Au moins, Ebola pourra-t-il servir de leçon? Cela étant, il n'est pas seulement temps de tirer les leçons d'Ebola, car l'épidémie n'est pas terminée, et l'attitude de l'OMS qui nous prévoit déjà un recul et une disparition de l'épidémie dans les 6 mois me semble très discutable.
Vous demandez à voir. Alors Benoît Mirabel, vous souhaitez réagir sur la question des épidémies virales émergentes que vient d'aborder René Broman, et donc ces nouvelles difficultés, ces nouvelles portes qui s'ouvrent sur des risques peut-être présents, latents et à venir?
Oui, ce que dit Ronnie Broman est bien connu de tous les spécialistes qui travaillent sur les pathogènes émergents ou réémergents. Là, on parle effectivement de fièvre hémorragique virale, puisque c'est la catégorie, et en particulier les filovirus pour Ebola, mais il y a Marbourg, on sait aussi qu'il y a l'Assa, la fièvre Lassa, notamment en Sierra Leone, qui est endémique. Donc, Ronnie Broman a raison de souligner ces enjeux-là. On ne perd pas de vue l'enjeu des maladies infectieuses. Par ailleurs, que ce soit les tuberculoses résistantes aussi, qui sont un vrai problème aujourd'hui, les multirésistantes, ou le paludisme, le HIV. Donc, il y a eu une polémique au départ de dire, bon, mais ça va pas durer, parce qu'habituellement, ces épidémies-là, on a l'habitude à durer 1 mois et demi, 2 mois. Bon, on en est à 6 mois, et effectivement, on peut déplorer, à un moment donné, le manque de réactivité, de réaction, de peut-être de certaines capacités locales. Alors, pour être précis, nous avons en ce moment un médecin, un spécialiste des fièvres hémorragiques virales qui donne des formations en Guinée. Il a fait un audit il y a 2 semaines, on est 6 mois après le début, et c'est vrai que c'est regrettable de voir le manque d'équipement dans les laboratoires de province, les personnes non formées. Donc on accélère ces formations puisque notre objectif c'est de donner des capacités localement. Et donc ça va poser la question, après cette épidémie, de bien sûr au-delà des recherches de vaccins ou de médicaments, c'est comment est-ce que dans ces pays on a des capacités localement. Il faut rendre, je dirais, l'hommage à MSF. Je ne sais pas où nous en serions aujourd'hui sans MSF. dans cette région d'Afrique de l'Ouest. Donc, je pose la question aussi, Ronnie Broman l'a évoqué et j'insiste là-dessus, parce que c'est vrai que nous ne pouvons faire ça qu'avec les gouvernements locaux, qu'avec leur volonté politique, qu'avec l'organisation de formation pour les personnels de santé qui payent un lourd tribut en ce moment. C'est un travail de fond. C'est pas que, je dirais, la réponse immédiate qui est bien sûr indispensable aujourd'hui, qui se fait lourdement, on le voit avec l'intervention américaine, qui est bien sûr importante et nécessaire au Liberia, mais il y a le travail de fond de ces capacités, parce que comme l'a dit Ronnie, et le savent les spécialistes, et comme le montre d'ailleurs l'OMS, c'est une accélération depuis les années 90 des virus et d'autres formes de pathogènes, des bactéries, hein, la tuberculose aussi résistante. Ça se multiplie avec les mouvements de population, avec le réchauffement, avec l'urbanisation, tous ces phénomènes-là. C'est une réalité. Et avec aussi un contexte global qui est les résistances antimicrobiennes, c'est-à-dire la limite aussi des antibiotiques, comme on le sait tous. Donc on a quand même, sans être trop alarmant, besoin de prendre conscience d'un travail qui peut se faire, parce que notre sort à nous en dépend également. Alors c'est plus facile de sensibiliser les gens à ces problèmes que la fin dans le monde. La fin dans le monde, les gens se disent, bon, bah, c'est vrai qu'il y en a qui meurent de faim, c'est loin, ça nous touche pas. Ça, c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça n'a pas de frontières, les virus, entre l'animal, l'humain, et on est tous concernés.
Alors, j'aimerais rebondir sur ce qu'on abordait précédemment quant au système de santé locaux, et je me tourne vers vous, Christian Bouquet. On a beaucoup dit qu'Ebola, finalement, était le terrible symptôme de la ruine des systèmes de santé. Ronnie Broman l'a évoqué. Depuis des années, le secteur social dans ces pays d'Afrique de l'Ouest concernés, eh bien, il est abandonné. Les budgets affectés à la santé sont dérisoires, ce qui prive les populations donc d'infrastructures sanitaires de qualité. Dans les trois pays concernés, je ne sais pas si Ronnie Broman pourra confirmer ou pas, mais il y a moins d'un médecin pour 10 000 habitants. Un commentaire peut-être, Christian Bouquet, sur cet aspect des choses et sur la réalité de ces pays.
Bah, c'est la déliquescence des États. Hein. Le fait que, indépendamment des guerres civiles qui ont eu lieu au Libéria et au Sierra Leone, mais en Guinée, il n'y a pas eu de guerre civile, il y a eu une longue dictature immobiliste, mais il y a surtout les mesures du FMI, de la Banque mondiale, qui limitent drastiquement les budgets sociaux, et les budgets sociaux, c'est ceux qui habituellement vont vers la santé et l'éducation. On en a là une tragique conséquence, à la fois parce qu'on a une épidémie et parce que au niveau des écoles, on a affaire à des populations qui sont si peu éduquées qu'elles restent dans des croyances ancestrales qui sont totalement contraires à la lutte contre une épidémie de la gravité d'Ebola. Alors la déliquescence des États en Afrique subsaharienne, on le dit depuis très longtemps, ça ne semble pas gêner grand monde, hein, mais là on s'aperçoit à la faveur de cette épidémie, comme on s'en est aperçu d'ailleurs à la faveur de quelques autres crises, celle du Mali, celle de la Centrafrique, où d'immenses zones grises se dessinent sur les cartes, les zones où l'État n'est plus présent. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de représentants d'État, il n'y a plus de préfets, de sous-préfets, ou alors ils sont corrompus, il n'y a plus d'argent pour entretenir les petits centres de santé qui existaient, il n'y a plus de formation pour les personnels soignants, et naturellement, vous imaginez l'immense fragilité de ces territoires face à une épidémie comme celle d'Ebola.
Alors, Ronnie Broman, on pensait l'Afrique à nouveau sur une pente vertueuse depuis 2004-2005, avec une croissance annuelle de plus de 5% qui n'a finalement cessé de se confirmer depuis 10 ans. Comment expliquer ce à quoi on assiste aujourd'hui ? Est-ce que les handicaps et les faiblesses du continent ont été sous-estimés ?
Mais je crois qu'il faut arriver à penser ce continent comme un ensemble pluriel et avoir des situations diverses. Il y a des pays, je pense au Ghana par exemple, qui ne font pas parler d'eux, notamment dans ce domaine. Si demain des cas se déclarent au Ghana, il me semble, compte tenu de ce que je sais de ce pays, que les possibilités de prise en charge sont là, que la détection précoce, l'isolement seront assurés par les autorités. Mais je suis bien d'accord avec ce que vient de dire Christian Bouquet. D'ailleurs, je crois que entre nous, il ne va pas y avoir de désaccord. Il y a des points de vue complémentaires. La déliquescence de l'État, qui est à la fois le fait, me semble-t-il, d'États qui se sont organisés avec le nom d'État, mais pas avec les véritables prérogatives, l'espèce de neutralité, de construction équitable que l'on a en tête lorsqu'on parle d'État. Les États importés post-coloniaux n'étaient pas exactement ce que l'on entend par État. Et par ailleurs, cette espèce de faiblesse ou ce malentendu congénital a été renforcé par ce que rappelait Christian Bouquet, à savoir des politiques extrêmement restrictives menées par notamment le FMI et la Banque mondiale dans les années 80 et 90. Donc tout cela produit les résultats que l'on voit. Mais que un certain nombre d'indicateurs positifs existent en Afrique, indicateurs économiques assez globaux qui ne décrivent pas la situation des populations, mais enfin qui donne quand même quelques éléments optimistes. On en a besoin tout de même pour agir si on a l'impression que tout est fichu. On est plutôt tenté de baisser les bras. Donc oui, il y a des éléments optimistes, il y a une Afrique dynamique qui bouge beaucoup, et puis il y a ces espèces de trous noirs, ces zones de faiblesse. Peut-être un point sur lequel je pense qu'il faudrait nuancer ce que disait Christian Bouquet, c'est cette question de l'éducation et des traditions ancestrales. En effet, l'éducation a beaucoup souffert et le niveau général de l'éducation doit s'élever. Pour ça, il faut bien qu'il y ait des crédits étatiques. Cela dit, ça n'est pas nécessairement, enfin, ce n'est pas aussi directement connecté que cela aux croyances ancestrales. Par exemple, les rites funéraires et les modes de comme on le sait, la proximité avec les cadavres reste infestant pendant longtemps, contrairement à d'autres maladies infectieuses. Et au Libéria en particulier, mais dans l'ensemble de la région, le traitement des cadavres, c'est-à-dire les rites funéraires, favorise la diffusion par les échanges de fluides corporels, favorise la diffusion de l'épidémie. Et puis par ailleurs, des peurs terribles ont saisi les gens devant ce qui devenait des mouroirs, les hôpitaux, les centres de soins. Eh bien, dans les deux cas, les positions ont évolué. D'ailleurs, considérer les hôpitaux ou les centres de soins comme des mouroirs n'était pas irrationnel, ce n'était pas de l'obscurantisme, c'était une observation empirique, c'était la réalité des gens qui sont entassés et qui donc favorisent la diffusion de l'épidémie, et puis qui par ailleurs ne reçoivent pas de soins. Eh bien, on peut appeler cela un mouroir, et ça fait peur. Donc cette peur n'était pas irrationnelle. C'est avec le développement des centres de soins bien fichus, avec isolement, traitement, bref, des centres qui ne sont pas une sorte de chambre d'écho de l'épidémie, mais au contraire un réceptacle pour les patients et les cas suspects. Avec cela, on a vu les transformations des comportements et des Africains, y compris des villageois qui ne sont pas nécessairement très éduqués, qui se sont au contraire bousculés pour aller se faire détecter, pour aller se faire soigner, si bien d'ailleurs que Médecins Sans Frontières, depuis plusieurs semaines, refuse du monde, est obligé de refouler des patients qui sont là pour se faire soigner, faute de pouvoir étendre ces installations à l'échelle suffisante, d'où d'ailleurs les appels lancés à la communauté internationale auxquels ont répondu un certain nombre de pays jusqu'à aujourd'hui.
Benoît Miribel, vous souhaitez réagir, vous compléter ce que vient de dire Ronnie Broman pour terminer cette première partie d'émission?
Disons qu'on peut compléter effectivement en disant que en ce moment même encore en Guinée, il y a des villages, des zones qui sont résistantes par rapport à Ebola, avec quelques violences, par exemple Biomou, Yekini, sont des zones difficiles par rapport à des croyances, par rapport à des tas de choses. Donc c'est une réalité que l'on connaît et qui nécessite encore une fois un travail de fond, de préparation, d'explication pour ces enjeux-là. Et je dirais aussi que on l'a vu hein, dans l'actualité, il y a eu donc la ministre du Développement qui est allée sur place, et qui a amené du matériel, notamment d'automne, et c'est vrai que notre médecin qui est allé voir sur place dans cet automne ce qu'il y avait et qui se réjouit de ce matériel-là, dit « mais c'est quand même dommage qu'on n'a pas eu de contact parce que il manque de gants corrects, il n'y a pas de bottes, il n'y a pas de bande adhésive pour étanchéifier les manches, les sacs à déchets n'ont pas de support, les gels antiseptiques ne sont pas validés sur Ebola, pas de pédilus, bref. » Il nous dit, celui qui a établi la liste, c'est dommage qu'il ne nous ait pas consulté, puisque notre médecin Christophe Perfit travaille avec le ministère de la Santé pour ça. Et ça pose aussi la question toujours de la coordination, qui est toujours importante avec les autorités locales, les acteurs ONG et autres qui collaborent. Donc c'est vrai que voilà, c'est un point aussi que l'on doit travailler tous ensemble.
Donc difficulté aussi dans la coordination géopolitique. Nous retrouvons nos invités Benoît Miribel, Christian Bouquet et Ronnie Broman dans quelques instants. À tout de suite.